c'est aujourd'hui que débute le plus grand tournoi de tennis au monde sur terre battue, Roland-Garros, enfin plus précisément les qualifications de ce tournoi du Grand Chelem. Les premières balles doivent être échangées dans un peu plus d'une heure, à 10h30. L'occasion pour Culture Média de se pencher sur la couverture médiatique de cette compétition avec quelques évolutions. Il y a cette année un nouveau diffuseur en plus de France Télévisions, et pas des moindres, le géant Amazon, et toujours des repères bien installés, notamment le magazine de tennis de référence, Tennis Magazine justement, qui comme chaque année vient de sortir son numéro spécial Roland-Garros. Bonjour Benjamin Badinter.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la publication de Tennis Magazine. Voyage au bout de l'inouï, c'est le titre de ce numéro spécial avec une photo de Raphaël Nadal en une. Pourquoi lui? On s'en doute. Mais pourquoi ce titre? Qu'est-ce qu'il y a d'inouï?
L'enjeu. Cette année, l'enjeu Roland-Garros est absolument inouï. Parce que Raphaël Nadal a l'opportunité peut-être unique de pouvoir dépasser enfin Roger Federer en gagnant son 21e titre du Grand Chelem. Et ce serait dans le monde du tennis une statistique à la fois affolante et qui placerait Nadal dans la course qu'il a toute l'année avec, enfin depuis des années avec Federer et Djokovic.
Ouais.
Comme probablement le plus grand joueur de tous les temps.
Vous lui consacrez deux articles, l'un dans lequel vous racontez comment il s'est lancé à Roland-Garros après ses deux seuls échecs, et l'autre dans lequel vous revenez sur la manière dont il a fait évoluer son jeu au cours de sa carrière. En tout cas, c'est très très fort. Je ne pensais pas que c'était aussi technique le tennis. Je ne pensais pas que les gens changeaient de coup en cours de carrière, comme si on tirait les grandes lignes différemment en football, par exemple.
Le tennis, si vous voulez rester au top, c'est une évolution permanente. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec la vidéo, vos adversaires passent beaucoup de temps à analyser, à décortiquer votre jeu. Et que ce soit Raphaël Nadal ou Federer ou Djokovic, chaque année, il faut faire évoluer son jeu. Donc, on frappe plus fort, on améliore son service, on va plus vers l'avant. Il faut surprendre à chaque fois.
Mais là, on voit même que les positions sont différentes. Vous mettez des photos. Oui. Ce qui est rigolo, c'est quand vous allez à l'école de tennis, on vous apprend une technique pour faire les services, mais lui, il change de technique en cours de carrière.
Oui.
Il ne sert pas de la même manière.
Non, il ne sert pas de la même manière aussi à cause des blessures qu'il a eues et qui l'ont obligé à certaines adaptations. Il y a cette réalité-là aussi.
Autre joueur hors norme, Roger Federer et Novak Djokovic. Avec Nadal, il domine le tennis mondial depuis une quinzaine d'années. Ça pourrait être la dernière fois qu'on les voit tous les trois à Roland-Garros?
C'est probable. Surtout en ce qui concerne Roger Federer. Roger Federer, il a 40 ans en août. Il a un début d'année compliqué, il vient à Roland-Garros plus pour préparer Wimbledon, il le dit lui-même, que pour briller porte d'Auteuil.
Ouais.
Je pense sincèrement
je vous interromps parce que le titre de votre papier sur Roger Federer, c'est « Touriste de luxe ».
Oui, oui, oui. Roger, il le déclare lui-même, il dit « Je viens pour faire des matchs, pas pour gagner Roland-Garros ». Donc voilà, c'est quand on connaît le niveau et le statut du champion, c'est assez impressionnant quand même.
On va dire un mot encore du tennis, du palmarès, et ensuite on va parler médias.
Oui.
À part ces trois-là, qui sont les principaux rivaux cette année? Est-ce qu'il y a des noms qui émergent? Alors, est-ce que le top 3 commence à être gratouillé, menacé, convoité évidemment, mais peut être atteint?
Alors, il y a deux, trois joueurs qu'il faut évidemment regarder de très près. Le grec Stefanos Tsitsipas, qui est en pleine forme, qui a gagné son premier Master 1000 à Monte-Carlo, qui a failli battre Nadal en finale de Barcelone, il a balle de match, qui a gagné à Lyon la semaine dernière. Donc le grec Tsitsipas, il y a le russe Zverev, qui a lui aussi battu Nadal à Madrid. Et puis il y a quelques jeunes pousses, comme Rublev, sans oublier une petite mention pour Dominic Thiem, qui, malgré une période difficile, est très 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 dangereux sur ce type de surface.
Dominic Thiem qui est autrichien, souris parce que je pense à Nicolas Canteloup qui nous écoute avec ses auteurs. Zéro français dans cette liste.
J'aimerais pouvoir en citer, mais sincèrement...
Vous avez le droit de dire non, hein. Si c'est non, la réponse est non.
Sincèrement, on voit pas.
Alors zéro français, zéro française non plus. Oui. Chez les femmes, qui par favorite?
Alors chez les femmes, la beauté du tennis féminin, c'est que tous les ans, on a une vainqueur différente.
C'est la beauté?
Ah oui, parce qu'il y a un suspense extraordinaire. Je veux dire, contrairement au match d'hommes où parfois on a un petit peu le souci de connaître le vainqueur avant le début du match, chez les femmes, tous les matchs sont ouverts. Maintenant, si on doit sortir une favorite, la Polonaise Świątek qui a gagné l'année dernière, ou l'Australienne Ashleigh Barty, tiennent le haut du pavé.
Ma question tennis va devenir une question média.
Oui.
J'ai entendu souvent des journalistes se plaindre, au contraire, de cette incertitude dans le tableau féminin. C'est jamais les mêmes, donc le public n'a pas le temps de s'attacher à quelqu'un, ce qui fait que les matchs féminins sont beaucoup moins suivis que les matchs masculins. Est-ce que vous partagez cette critique?
Pas complètement. Je pense que les matchs féminins sont de plus en plus passionnants. Je pense que on a au contraire, une diversité. Le souci, et là je rejoindrai mes confrères, c'est que elles ont un jeu souvent formaté qui se ressemblent, et à part Ashley Barty, c'est un petit peu semblable.
Attendez, les faits, il y a les faits, puis il y a les mots, plutôt il y a les mots, il y a les faits. Dans votre numéro spécial Roland Garros, il y a 160 pages, il n'y en a qu'une douzaine consacrée au tennis féminin, 12 sur 160, ça fait 7,5%. Pourquoi si peu ?
Pourquoi si peu ?
Ouais.
Oh ben parce qu'il faut être aussi très clair. Ce que les lecteurs viennent chercher en premier, c'est toute la saga qui oppose les trois grands, plus que des icônes féminines qui connaissent mal. Mais je dirais, Tennis Magazine s'adresse à la fois aux spécialistes, mais au grand public. Et pour le grand public, il faut absolument parler d'abord de ces icônes. Les spécialistes, eux, vont très bien s'y retrouver avec même la petite partie que l'on fait sur le tennis féminin.
Comment ça va se passer pour les spectateurs et surtout, comment ça va se passer pour les médias sur Roland-Garros 2021 ? On en parle avec Benjamin Badinter. Il est le directeur de la publication de Tennis Magazine. Culture Média continue, Palneuve. Voyage au bout de l'inouï, c'est le titre et la couverture de Tennis Magazine, le numéro spécial qui sort aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui démarre les qualifications de Roland-Garros. Le tournoi en tant que tel démarre vendredi. Comme l'an passé, le tournoi va se dérouler. Benjamin Badinter, je ne l'ai pas dit, vous êtes le directeur de la publication de Tennis Magazine. Le tournoi va se dérouler dans des conditions un peu particulières à cause de la crise sanitaire. Un peu plus de 5000 spectateurs par jour jusqu'au 8 juin. Ensuite, un peu plus de 13000 pour les 5 derniers jours. Mais bon, la compétition a lieu à la période habituelle. L'an dernier, Roland-Garros avait été repoussé au début de l'automne. Et vous écrivez « On dirait la vie ». Que voulez-vous dire par là ?
Ce que je veux dire, c'est que ça fait du bien d'abord de pouvoir rouvrir un petit peu Roland-Garros, même si les jauges sont au départ très serrées. Mais Roland-Garros, début juin, a retrouvé sa date originelle. Et la fin du tournoi avec la jauge dont vous avez parlé devrait permettre d'avoir une ambiance assez explosive, à condition que les matchs soient évidemment au rendez-vous. Mais c'est pour ça qu'on va retrouver ce parfum exceptionnel de ce tournoi fabuleux.
Le tennis a beaucoup souffert de la pandémie, peu, pas du tout.
Le tennis a beaucoup souffert de la pandémie et les joueurs ont beaucoup souffert de la pandémie. Ils se sont rendus compte, et nous avec, que les tournois à huis clos étaient psychologiquement compliqués. D'ailleurs, Dominic Thiem, qui a gagné l'US Open, ensuite a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Enfin, en discutant avec lui, on s'est rendu compte qu'ils avaient beaucoup souffert.
Ah oui, la limite de la dépression. Vous citez des phrases de lui dans Tennis Magazine, c'est hallucinant, quoi. Ouais. On dirait qu'il a plongé.
Oui, souvent, quand on atteint son ultime objectif, lui, c'était de gagner un tournoi du Grand Chelem. Il y a un gros moment de vide derrière et c'est ce qui lui est arrivé.
Alors, je le disais en introduction, il y a des nouveautés cette année à Roland-Garros. La première, un court entièrement couvert. Ce sera le court central, le court Philippe Châtrier. Qu'est-ce que cela va changer ?
C'était déjà le cas l'année dernière.
Ah, pardon.
Le court était déjà couvert. Ce qui va changer, c'est que d'abord, les spectateurs auront l'assurance de voir les matchs. Donc c'est déjà très important. Et puis, la terre battue indoor n'est pas la terre battue à l'extérieur. Donc ça peut avantager certains attaquants qui joueront avec des conditions mieux maîtrisées. Et on sait que les attaquants ont besoin d'être moins perturbés dans les conditions de jeu. Donc le court couvert avantagera la vitesse du jeu et le jeu vers l'attaque.
Alors, grande nouveauté dont vous parlez, l'arrivée d'un deuxième diffuseur, Amazon Prime Video. France Télévisions n'est donc plus seul, c'est une première. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir sur Amazon ?
On va pouvoir voir les night sessions. On va pouvoir voir ce que...
Les sessions de nuit, je parle en français.
Pardon, excusez-moi.
Je dis ça pour Hélène Manarino.
On va pouvoir voir donc les sessions de nuit avec ce qui est le match du jour. Donc Amazon a acheté le match du jour la nuit. Avec un des avantages, c'est que jusqu'au 9 juin, ce sera à huis clos. Donc on va se retrouver avec des sessions de nuit à huis clos. Donc on va voir comment Amazon va réussir avec les organisateurs à pouvoir pimenter ce moment. Juste pour information, Amazon n'en est pas son coup d'essai, puisque Amazon fait partie aussi des diffuseurs de l'US Open depuis maintenant de nombreuses années. Donc ils savent, ils ont déjà investi le tennis et ils ne sont pas là pour rien. Pour en revenir à Roland-Garros, les sessions de nuit vont poser une question intéressante. Match d'hommes, match de femmes, on y revient. Je pense que le choix ne sera pas simple pour les organisateurs.
Alors qui va choisir ? Parce qu'évidemment, il y a France Télévisions qui est là, qui est le diffuseur historique. Qui va choisir quel match passe où ?
Alors, officiellement, la FFT.
Fédération française de tennis.
Oui, normalement, voilà. Guy Forget, qui est directeur du tournoi de Roland-Garros, avec ses équipes, a en charge la programmation. Et c'est à eux d'arbitrer pour savoir quel est le match que l'on va mettre en avant le soir.
D'accord. Vous y croyez ?
J'y crois. Oui, enfin, j'y crois. Je pense que ils auront certainement leur mot à dire. Je pense qu'ils seront influents sur le sujet.
Je veux dire le sens
mais
de ma question.
Négocier.
Je veux dire le sens de ma question, c'est qu'il y a parmi les consultants d'Amazon, il y a Arnaud Clément, ancien joueur, qui est également vice-président du haut niveau à la FFT.
Oui.
Donc, il paraît quand même assez invraisemblable que son avis ne compte pas dans la balance et qu'il n'ait pas envie de récupérer les meilleurs matchs pour Amazon.
Oui, mais connaissant Arnaud, c'est un garçon qui respecte les prérogatives des uns et des autres. Maintenant, le meilleur match pour Amazon, c'est un sujet parce que qu'est-ce que le meilleur match? Est-ce que c'est Nadal? Est-ce que c'est Federer? Est-ce que c'est Djokovic?
C'est la question que j'allais vous poser. C'est décider comment et à quel moment on sera chaque matin. Par exemple, quand il y a le championnat de France de football, il y avait les meilleures affiches sur Canal Plus le dimanche soir. C'était Canal qui choisissait l'affiche qu'il souhaitait voir sur la journée, sur les 10 matchs de championnat. Et ensuite, quand c'était Bing, par exemple, récupérait les autres matchs. Là, comment ça va se passer? À quel moment ça va se décider?
Ah, ça va se décider au moment où on décide de la programmation du jour qui vient, c'est-à-dire en fin de journée. Et là, ça dépendra aussi des désirs des joueurs et des grandes stars. Un joueur comme Roger Federer, même s'il ne l'avoue pas, ou Rafael Nadal, ont quand même là aussi eux leur mot à dire.
À vos yeux, c'est pas un problème qu'un haut dirigeant de la fédération soit consultant pour l'un des diffuseurs?
Oh non, pourquoi? C'est un garçon dont j'assure la grande probité, Arnaud Clément, il n'y a aucun problème.
Non, je ne parlais pas d'Arnaud Clément, c'était de manière générale. Est-ce que ce n'est pas gênant d'être jugé parti?
Il n'est pas jugé parti, parce que quand il va commenter un match de tennis, il ne va pas faire la promotion de ce moment-là du diffuseur, je ne pense pas.
Pourquoi c'est un problème, les matchs féminins, le tableau féminin?
Alors, c'est pas que c'est un problème, c'est que médiatiquement, évidemment, ça pèse moins que le tableau masculin. Mmh. Bah d'abord parce que, on l'a dit, hein, l'absence de grandes stars reconnaissables, même si Osaka, numéro un mondial, et Ashley Barty, ça monte, fait qu'on a plus de mal à fédérer les spectateurs, et les gens ont besoin de repères. Quand ils entendent qu'il y a une grande star qui va jouer, tout de suite, ça déclenche un réflexe où on a envie de voir. Sinon, ça sera plus pour les connaisseurs.
Et juste comme ça, après on change de sujet, question technique, pourquoi ne pas avoir instauré la parité? Un match d'homme, un match de femme, un match d'homme, un match de femme pour les night sessions?
Bonne question, il faudra la poser à la fédération. Je ne sais pas. Je pense que c'est la première fois qu'Amazon va pouvoir le faire. On va voir comment ils vont le faire, mais il y a aussi, comme vous dites, un problème en termes d'audience. Un match d'homme au meilleur des 5 manches, c'est pas un match de femme au meilleur des 3-7.
Un mot de l'audience de Tennis Magazine, c'est imprimé sur du papier glacé, c'est assez rare pour être signalé.
Oui.
C'est parce que c'est une machine à récupérer de la publicité ou c'est un choix éditorial?
C'est un choix éditorial. Moi, je voulais faire un magazine haut de gamme qui s'adresse à la fois aux passionnés, aux amateurs et aussi à ceux qui veulent passer un bon moment en lisant des articles sur le tennis. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des articles très diversifiés. Ça va de la course des trois grands champions à des articles plus différents, avec plus de diversité. J'y tenais beaucoup.
Ouais, et la course sur les trois, il y a des stats. Ils vont fermer l'ENA. S'il y a des énards qui peuvent venir nous aider à faire les calculs, et on sera contents. Et en même temps, comme vous dites, vous vous adressez aux puristes et aux touristes, puisqu'il y a le grand poster central. Jack côté, un côté Björn Borg, de l'autre côté Federer. Vous avez mis lequel dans votre chambre?
À l'époque, j'aurais mis Björn Borg.
Bah évidemment, puisque Federer n'y était pas.
Exactement.
Avec interview exclusive de Borg. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Benjamin Badinter.
Merci.
Directeur de la publication de Tennis Magazine. Roland Garros, ça démarre. Évidemment, Europe est la radio officielle de Roland Garros. Et nous, on y sera. Il y aura une émission spéciale en direct de là-bas. Merci d'avoir été.